Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 80e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu. Salut Caf.
Hello.
Est-ce que ça va bien?
Écoute, tout va bien.
Allez,
tant mieux. La positive attitude.
Sobre et concis.
J'ai été faire des petites parties d'Apex pour tuer personne dans la vraie vie, ça va beaucoup mieux.
Et du coup, on va pas parler d'Apex cette semaine.
Non, on va parler d'un autre truc, mais je te rassure, c'est un Battle Royale quand même. Hein. On commence le gaming. tu vois, la partie gaming est pas du tout trustée par les Battle Royale en ce moment.
Pas du tout. Spellbreak donc.
Spellbreak, on en a pas du tout parlé, ça a été annoncé en fait en fin d'année dernière. Sauf que c'était pas très évident de savoir à peu près à quoi ça allait ressembler. Et si c'était pas un produit de plus pour la ruée vers l'or des Battle Royale, alors on va pas se mentir, c'est un produit de plus pour la ruée vers l'or, vers les Battle Royale. J'en parle parce que c'est réalisé avec l'Unreal Engine et que c'est super mignon, ça a une gueule de... Pour ceux qui ont joué à Zelda Breath of the Wild, c'est le même genre de shader en fait, c'est le même genre d'effet sur les personnages, les vêtements, etc. Donc c'est plutôt joli et assez inattendu, on n'en a pas trop dans ce genre-là, dans le monde du Battle Royale. Donc entre les trucs super réels et les trucs cartoon mais un peu différents à la Call of Duty et compagnie, enfin Blackout, Apex, etc. C'est très coloré mais t'es quand même sur des trucs déjà vus. Là c'est tout choupi, c'est tout mignon et en fait bon bah tu vas quand même te coller des gros sorts sur la gueule car dans Spellbreak la différence c'est qu'il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas de fusil monsieur.
D'accord.
Alors, comme son nom l'indique c'est un baston de magicien. C'est réalisé par une boîte qui s'appelle Proletaria Game qui j'adore le nom de la boîte.
Oui,
ça fait trop marré. Proletaria Games, je veux dire, fallait oser. La blague, c'est que les mecs aiment se faire du mal parce que, donc, comme ils se sont dit, ok, on va faire des magiciens qui se bastonnent entre eux et tout. Donc, déjà, tu peux customiser ton personnage. Donc, le personnage peut avoir un look différent. Et ensuite, tu peux sélectionner différents pouvoirs, etc. quand tu rentres dans une game. Et, au lieu de faire des trucs relativement simples, ils ont prévu des kits, donc, des ensembles de pouvoirs pour chaque perso ultra complets. Mais il y en a 11 déjà.
Okay.
Est-ce que tu vois le problème arriver?
Un petit peu, oui.
Va falloir balance tout ça, il va falloir l'équilibrer, ça va être hyper rigolo. Donc évidemment, pour l'instant, c'est déjà pas du tout le cas. Non, alors pour situer le développement du jeu, faut préciser qu'on est en pré-alpha fermé, mais on a le droit d'en parler. Ils ont fait sauter tous les NDA et compagnie il y a pas très longtemps. C'est pour ça que là vous allez voir un paquet de vidéos débarquer sur YouTube, il y a des gens qui le stream, etc. Je pensais faire un stream d'ailleurs sur le truc mais je sais pas combien de temps je peux y jouer sans m'énerver, donc c'est un peu compliqué parce que
ça peut être rigolo si tu t'énerves. J'aime de l'ambiance.
On peut faire un truc quand tu joues à Apex où tu peux te balader et sauter partout, etc. Là dans celui-là des fois t'es bloqué par un petit muret de 20 cm. Ouais.
Les joies d'alpha.
Et ça m'agace parce qu'en fait, le jeu est pas du tout prévu comme ça. Si tu as la bonne ceinture qui permet de s'envoler, bon, bah, très bien, tu peux te déplacer plus facilement, mais quand tu l'as pas, t'es des fois coincé dans le décor. La mobilité, à mon avis, entièrement à revoir dans le jeu et j'espère qu'ils y pensent parce que c'est très, très, très pénible. Et sinon, bah, les combats actuellement sont hyper brouillons parce qu'on voit pas très bien quand on est touché, quand on est targeté. En fait, il y a tellement de sorts différents, il y a tellement d'attaques de zone que des fois on se fait dépoper et on est mort et on fait genre pourquoi d'ailleurs on n'est pas mort dans le jeu, on est exilé.
D'accord.
Je trouve la nuance assez drôle. Du coup tu te retrouves avec un bordel en squad particulièrement, ça c'est rapidement n'importe quoi sur ton écran et je pense qu'ils vont avoir un gros problème de lisibilité, mais comme c'est dispo en alpha, bah écoutez, tentez de vous inscrire pour récupérer le jeu, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Moi j'ai été pris dans l'alpha en moins de 24 heures, ce qui a beaucoup énervé des gens d'ailleurs sur le Discord officiel, puis il y a des gens qui attendent depuis très longtemps d'être invités. Alors j'ai pas du tout compris pourquoi j'ai été fast-tracké sur le truc, mais tant mieux. Et le feeling global en fait, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses à gérer et je pense que ça va en rebuter plus d'un, puisque donc quand on a les pouvoirs de base de son personnage, mais effectivement il y a plein d'items évidemment à ramasser, c'est un Battle Royale, ne l'oublions pas. Donc tu peux ramasser des bots qui vont te filer des pouvoirs passifs, et des ceintures qui vont te balancer des pouvoirs aussi, bah, genre celui et celle qui permet de s'envoler, dont je parlais tout à l'heure. Et surtout des gauntlets comme tu les aimes dans Marvel, avec des pouvoirs à droite et à gauche qui peuvent être différents. Tu peux avoir un gauntlet de feu, un gauntlet, donc un... Comment on dit en français un gauntlet?
Un
gant, tout bêtement. Hein. Mm-hmm. Mais c'est un gant, tu vois, bien métallique, qui met des grosses droites. Enfin là, ça balance des pouvoirs, donc c'est parce qu'il doit y avoir un truc entre les deux, mais le mot me revient pas. Le mot médiéval ne me revient pas. Bref. Et du coup, tu peux balancer en fonction de ce que tu as récupéré. Tu peux récupérer des trucs plus ou moins puissants, puisque évidemment, là aussi, ils ont respecté la nomenclature qui nous vient direct du MMO, avec des trucs blancs normaux, vert un peu mieux, bleu, ah, ça commence à être pas mal. Orange, épique, violet, machin. Donc tu as un peu la totale. Et évidemment, quand tu récupères des trucs super rares, tu es beaucoup plus puissant. Voilà, donc c'est à tester. On va suivre le développement du truc gentiment. Sauf que là, ça va faire grincer des dents. Ils ont retiré le jeu et de Steam et de leur launcher maison. Maintenant, pour pouvoir continuer à être sur l'alpha, il faut utiliser le launcher Epic, car ce sont des petits développeurs qui bénéficient d'une bourse de chez Epic Games. Donc, du coup, ils sont, à mon avis, un peu liés au store Epic pour ce titre. Donc, si vous détestez le store Epic, c'est mal barré.
Je vois que si on veut participer, enfin si on veut forcer un peu la main à l'alpha, il y a moyen de payer en fait.
Oui, alors ça j'en ai pas parlé, mais il y a les founder, comme d'habitude dans ce genre de projet, il y a des founder packs.
C'est pas donné, hein.
Les packs fondateurs qui sont effectivement, t'as le mash pack qui commence à $50, le battle mash pack à $80 et le master pack pour les gens qui ont trop d'argent à $120. Et je confirme que n'achetez rien en fait, ne dépensez pas d'argent, parce que déjà je ne sais pas du tout si le projet à terme sera réellement intéressant, et en l'état il y a plein de bonnes idées, vraiment graphiquement ils ont une direction artistique qui cartonne, mais le gameplay me paraît quand même vachement bordélique et très très difficile à terme à équilibrer, donc on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant je voulais en parler pour vous faire tester la bestiole. On fera peut-être des streams pour rigoler avec la communauté, mais sinon je doute que pour l'instant ça vaille vos dollars.
Et on passe du côté des apps, avec une app qu'on utilise toi et moi, ClickUp, il y a du nouveau de ce côté-là ?
Ouais, ClickUp, c'est notre copain pour gérer nos tâches, dont on respecte pas les dates, surtout moi en ce moment. On a beaucoup de choses, hein, on a vraiment beaucoup de choses de prévues, puis on les déplace subrepticement d'un jour à l'autre en disant ce truc-là, je vais bientôt le faire, je te jure. On fait des deals avec nous-mêmes, c'est moche. Donc voilà, ouais, c'est un gestionnaire de tâches comme Asana et compagnie. On avait fait un dossier l'année dernière sur ClickUp.
Ça reste notre préféré malgré tout. Hein.
Bah, en gratuit, c'est de très très loin le plus puissant du marché et ils continuent de se bonifier, donc ils font plein d'optimisations pour le rendre de plus en plus rapide. C'était un de ses principaux problèmes l'année dernière et du coup ils ont été assez emmerdés par leur communauté qui les a pas lâchés, donc ils optimisent et ils continuent. Ils ont rajouté énormément de choses qui n'existent tout simplement pas dans la concurrence, c'est-à-dire qu'on peut définir ses propres champs, donc faire ses propres tableaux pour savoir qui va faire quoi, et en fait t'es pas du tout dans un carcan où tu peux pas faire évoluer ta liste de tâches, tes projets, etc. Tu peux définir plein de trucs d'une manière beaucoup plus souple que ce que le propose la concurrence, tout bêtement. Et ils avaient un souci qui était assez problématique en 2019, c'est que l'interface de l'application mobile était quand même super moche. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont enfin corrigé ça sur iOS. En tout cas, j'ai pas regardé sur Android si ça avait été updaté aussi, mais on commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose, donc c'est beaucoup plus joli. Alors, c'est toujours pas adapté à l'iPad, hein. C'est assez basique en fait ce qu'ils ont pour l'instant, mais ça marche beaucoup mieux et on peut enfin faire les tris, etc., correctement sur mobile, ce qui n'était pas possible incroyablement il n'y a encore pas si longtemps, et ce qui m'agaçait au plus haut point. Donc du coup ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième, c'est que le produit lui-même continue d'évoluer. Ils ont rajouté les goals, je sais pas si t'avais vu ça, donc tu peux mettre du but maintenant,
le truc, ouais.
Ouais, t'as vraiment énormément de choses, hein. Tu peux faire plein de trucs avec, tu peux mettre par exemple des goals sur la semaine, enfin des buts sur la semaine, des trucs à faire. Pour nous ça sert à rien vu qu'on les déplace et qu'on les fait pas. Ça va juste nous dire 0% bande de tocards. Donc je pense que c'est, on peut s'en passer. Et le truc qui est important pour les gars qui aiment bien mais qui ne sont pas complètement convaincus, c'est qu'ils bossent sur une 2.0 totale pour la version web, qui est à mon avis une façon d'accélérer encore une fois leur produit. Ils sont très contents des fonctionnalités, mais la vitesse reste perfectible. Ouais. Et à mon avis, ils savent très bien que leur interface, c'est à force de rajouter des choses, leur interface est devenue quand même quelque chose de très compliqué parfois, Les gens râlent, par exemple, quand tu veux faire une to-do simple. Moi, j'utilise énormément Things, par exemple, pour mes to-do perso et les trucs de mon boulot hors Geekzone, parce que pour rentrer à une tâche, ça prend 2 secondes. Alors que l'autre, ça peut prendre beaucoup plus longtemps en fonction de ce que tu veux faire.
C'est le seul reproche que je lui ferais, en fait, c'est effectivement qu'il peut parfois être un peu lent. Et c'est vrai que quand tu dois rentrer plusieurs trucs d'affilée, c'est un peu problématique.
Voilà, et donc je pense qu'ils vont faire un produit qui sera un peu plus facile là-dessus. Les gens qui continuent de préférer Asana, etc., ça fait partie des trucs qu'ils préfèrent. Parce que Asana, si tu es sur la bonne page, etc., tu veux rentrer un truc, ça prend 3 secondes, tu vois. Donc sur ClickUp, ça peut le faire aussi, mais si tu veux commencer à rentrer 2-3 choses supplémentaires, genre la date, etc., ça reste beaucoup de clics et beaucoup de balades dans l'interface. Et maintenant qu'il y a plein de soft où tu peux dire rendez-vous avec machin à telle heure, et en fait, tout va se compléter automatiquement. Et ça, ils l'ont pas, ils sont censés l'avoir. Ça fait partie des trucs qu'ils étaient censés avoir tout de suite.
Et toujours pas l'extension Firefox non plus.
Bon, alors ça, j'ai arrêté de demander, puisque l'année dernière, on m'a dit la semaine prochaine.
Hein, c'est ça.
Il y a eu beaucoup de semaines depuis. non, ils ont fait une extension qui marche très bien sur les Chrome-like, mais qui est effectivement absolument absente du reste. Mais ils ont rajouté des choses sur iOS au niveau de la share sheet. Donc, tu peux envoyer des pages web, etc., vers des notes, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, vers des tâches, pardon. Mais ça reste. En termes d'interface, tu sens que ça tatillonne encore, et je pense que ça peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et à mon avis, ils rentrent là dans une vraie phase de polish au niveau de l'interface, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont ouvert les inscriptions pour la bêta qui devrait pas tarder à arriver.
ClickUp donc, et on vous renverra vers le papier que tu avais écrit à l'époque sur Geekzone pour parler du produit. On passe du côté de la culture avec une nouvelle qui va te faire plaisir, puisque ça y est, on a enfin une annonce officielle pour la saison 2 de The Tick.
Yes.
On en parlait dans le Torréfaction de la semaine dernière, je crois.
Moi, je crois bien,
qui
ouais.
est une des bonnes créations d'Amazon Prime. Hein. On rappelle le pitch, c'est une série télé autour des super-héros, mais avec un angle un peu particulier, puisque c'est en gros un loser qui s'appelle Arthur et qui est épaulé par un super-héros qui est un peu con-con quand même, qui est super puissant, mais qui est un peu con, qui est un peu
il
un peu premier
problèmes.
Degré. C'est une espèce de Drax.
C'est ça, il a des relations sociales compliquées.
Voilà, qui s'appelle The Tick donc, et qui nous racontait dans la saison 1 leur combat contre The Terror, qui était donc leur némésis. Alors le pitch de la saison 2, c'est encore assez flou, hein. La série vient d'être confirmée et le trailer vient de sortir, donc on n'en sait pas encore, grand chose. Si ce n'est que Tick et Arthur vont donc devoir faire face à de nouveaux et d'anciens ennemis maintenant qu'ils ont réussi à terrasser The Terror. Hein. Et a priori, ils vont lutter aussi contre Aegis, qui est donc une agence gouvernementale chargée de réguler les super-héros. Une agence qui n'est pas trop convaincue par leur capacité à remplir le taf de super-héros, donc il va falloir lutter contre eux aussi. D'autant qu'a priori, il y a de la concurrence, puisqu'il y a un paquet de nouveaux héros qui sont a priori teasés et annoncés, dont un espèce de croisement très bizarre entre Luke Cage et Iron Fist.
Avec un téton au milieu.
Voilà, c'est ça, qui maîtrise le blind eye, donc l'œil aveugle, qui est son troisième téton. Ça vous donne une idée un peu du ton de la série. Et donc, a priori, la frangine va endosser le costume aussi, et ça, c'est plutôt cool, parce que j'aimais bien la frangine dans la saison 1, mais c'est vrai qu'elle
tu n'étais pas le seul, d'ailleurs, voilà. Parce que dans la série, il y a... Je voudrais pas spoiler, mais il y a un personnage qui aime beaucoup la sœur.
Oui, c'est vrai, exact.
Et d'ailleurs, dans le teaser, ils font une allusion.
Ils en remettent une couche, ouais, c'est ouais. ça. Et retour d'Alan Tudyk, toujours dans les bons plans, puisque c'est lui qui faisait la voix de Danger Boat, hein, cette espèce de véhicule du personnage en question qui draguait la sœur. Je me souviens plus de son nom, d'ailleurs.
Non, je l'appelle Monsieur Lentille, moi.
Mais... Voilà, c'est ça. La série est prévue pour le 5 avril 2019 sur Amazon Prime. On n'a pas plus d'infos pour le moment, mais on peut sans doute s'attendre à 12 épisodes comme la saison 1. Donc voilà, The Tick, si vous n'avez toujours pas maté, vous avez jusqu'au 5 avril pour mater la saison 1 et nous on vous recommande chaudement, ça vide bien le cerveau. Dark Phoenix, alors là c'est...
Hein, ça vide le cerveau aussi.
Ça vide le cerveau aussi et c'est fait par des cerveaux un peu vides aussi.
Oh.
Oui, je suis méchant mais je n'aime pas le monsieur qui est derrière, on va en parler. Donc c'est le dernier, a priori, dernier film de la Fox autour des X-Men avant le rachat par Disney. Donc c'est écrit et réalisé cette fois-ci par Simon Kinberg qui avait déjà écrit les précédents et qui avait aussi écrit The Last Stand, qui était déjà un petit peu autour du Dark Phoenix. Plus de Bryan Singer, curieusement, long, hein, depuis que monsieur est quand même un petit peu le nez dans les accusations à gauche, à droite, de choses pas très très nettes. On n'entend plus parler du monsieur, donc il a été éjecté du projet. Le pitch, c'est un peu le même pitch que The Last Stand, finalement, hein, puisque Jean Grey devient Phoenix et manifestement veut tout faire péter et tuer tout le monde. Donc encore une fois, on se retrouve dans une histoire de mutants contre des mutants. C'est un peu tout le temps la même chose du côté de la Fox. Hein,
Est-ce que tu avais lu le comics de cette histoire?
Non, alors je l'ai pas lu malheureusement, mais j'en ai lu des bribes à gauche, à droite, et voilà.
Parce que justement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que c'est pas vraiment Jean Grey, en fait.
Non, mais c'est ça. Alors justement, il y a un personnage mystérieux qui apparaît dans ce nouveau trailer, qui est incarné par Jessica Chastain, qui est présenté comme un personnage alien. Alors, est-ce que ce serait le Phoenix, justement? Puisque dans les comics, sans trop vous spoiler, le Phoenix est une entité, en fait, hein, c'est une vraie entité, qui vient de l'espace, et qui donc a plein de pouvoirs, et qui fusionne avec Jean Grey, et qui la transforme donc en espèce de machine à tuer. Des choses très surprenantes dans ce trailer malgré tout, puisque on constate que Mystique se fait dézinguer assez vite, manifestement. Donc c'est le genre de truc que d'habitude on met pas dans un trailer, mais là ils se sont dit on n'a rien à foutre, on va le mettre dans le trailer.
On sait pas si elle se fait dézinguer, c'est compliqué. Quand même, hein.
Ouais, disons que c'est, en tout cas c'est vachement inté. Et donc voilà, encore une fois, du Simon Kinberg. Donc moi je suis pas particulièrement impatient, parce que j'aime pas trop ce que le monsieur fait d'habitude. Ça a l'air de bien péter visuellement, mais pour le reste, j'ai un peu peur de revoir encore une fois une histoire de mutants contre des mutants. C'est dommage, il y avait tellement d'autres choses à exploiter du côté de la franchise, mais bon, maintenant c'est fini, puisque de toute façon ça va revenir chez Disney et on espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. Ça sort le 7 juin, donc dans 4 mois, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, que le trailer était sorti, si vous voulez aller le voir, je vous linkerai dans le billet qui accompagne ce podcast, et on va passer du côté de la tech et on va essayer de démêler un peu les fils USB.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Ah là là, génial. Alors je pense que, parce que tout le monde en a parlé tellement c'est n'importe quoi. Donc j'espère que tu as suivi cette fabuleuse aventure.
Pas du tout, donc brief-moi.
Ah là là, génial, tu vas kiffer. Attends, bouge pas, j'ouvre ma note, parce que pour le coup, celle-là, il faut que je lise en même temps, sinon je vais péter un câble. C'est n'importe quoi, je te jure. Donc les gens qui travaillent à l'USBIF, on appelle ça l'Implementers Forum, n'est-ce pas, qui est le consortium de gens de cerveau, tu vois, qui est censé réguler la norme USB. Et ben des fois, tu vois, je me dis effectivement, je comprends pourquoi Apple a pas voulu y aller au départ, parce que c'est putain de n'importe quoi. Donc je voulais commencer par une blague. Tu te rappelles la blague de Coluche? Maintenant il y a plus de blanc, il y a plus de jaune, il y a plus de noir, vous êtes tous bleus. Bon, bah les bleus clairs devant, les bleus foncés derrière.
C'est ça. Oui.
Et ben c'est un peu ce qui vient de se passer avec le rebranding de la norme USB. Alors mon qu'est-ce Dieu. Que c'est un rebranding? C'est quand tu prends des noms qui existaient déjà et puis tu fais genre on va faire plus simple, ça va être mieux. Spoiler alerte. C'est rarement mieux en vrai, hein. Mais surtout quand les mecs de l'USBIF s'en mêlent, je pense qu'en fait les gars ont jamais rencontré d'êtres humains qui vont faire leurs courses, qui achètent des produits, parce que là c'est complètement n'importe quoi. Donc on avait eu déjà un aperçu de leur capacité à foutre la merde avec un truc qui s'appelait l'USB 3.0, tout le monde savait ce que c'était, qui est devenu magiquement l'USB 3.1 génération 1. Donc c'était déjà la même chose, mais on avait juste renommé le truc pour faire genre moderne, mais tu vois c'est l'ancien, mais c'est moderne, ok? Là tu te dis mais pourquoi? Enfin faites le 3.1 et puis on n'en parle plus quoi, et puis mais faites pas des générations au lieu de changer les noms, enfin tu vois déjà c'était débile. Et là maintenant on va falloir que tu t'accroches parce que moi j'ai un tableau sous les yeux, mais pour toi ça va être compliqué, et pour toi aussi qui écoute ce podcast ça va commencer à être compliqué. Donc je vous rassure, hein, je link dans le billet qui accompagne le podcast une news qui fait un peu l'état des lieux avec le fameux tableau en question. Avant on avait, je vais vous faire le truc très très simple, avant on avait l'USB 3.0, c'est devenu l'USB 3.1 génération 1. Maintenant ça devient l'USB 3.2 génération 1, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose mais c'est du 3.2 parce que c'est magique. Ça c'est le terme technique, mais comme ils se sont dit les gens vont rien comprendre, sans déconner les gens vont rien comprendre, oui, ça devient aussi le super speed USB.
Ok.
Parce que ça, c'est le terme marketing. Mais du coup, l'USB 3.1 qui existe, et qui est une vraie spécification, qu'est-ce que c'est? L'ancien terme, c'était USB 3.1 génération 2, qui devient l'USB 3.2 génération 2.
Tu m'as perdu déjà, c'est bon.
Tu vois, c'est pas mal. Donc, ce qui est génial, c'est qu'avant, ça s'appelait 3.1 génération 2, mais comme ils ont décidé de tout passer à 3.2, du coup, ça devient le 3.2 génération 2, ce qui n'a aucun sens.
Et on connaît les raisons de ce changement, ou bien
ouais, c'est juste... la drogue.
Enfin, ok, d'accord. Non, mais ça se tient. Hein.
Non, les mecs, je pense qu'il y a beaucoup trop d'ingénieurs dans cette boîte, mais des gens
qui ont trop de temps.
Il y a une news qui m'a fait beaucoup rire. Il fait genre, en anglais, c'est plus percutant. En français, ça rend pas aussi bien, mais en gros, c'était ces gens n'ont pas encore rencontré d'être humain. Faut pas leur en vouloir, quoi. Ils savent pas, ils comprennent pas. Donc, l'USB 3.2 génération 2, ça s'appelle le Super Speed USB 10 gigabits. Enfin, GBPS, je vous le fais en français, des gens qui savent pas prononcer les trucs. Je suis fatigué. Mais du coup, comment on fait pour l'USB 3.2 qui n'existait pas? Bah, lui, ça devient l'USB 3.2 génération 2x2, en fait. Tu vois?
Okay.
Parce que là, il y a une raison technique derrière. Parce que ça veut dire qu'il peut envoyer plus de data et donc son nom, c'est Super Speed USB 20 Go. En fait, le problème, c'est que c'est des câbles en fait qui changent à l'intérieur de ton petit câble USB rigolo. Et là où ça va devenir drôle, c'est que pour avoir de l'USB 3.2, si tu t'arrêtes à USB 3.2, ça veut dire que tu peux avoir trois générations de produits derrière qui n'ont rien à voir entre elles, hein, qui font du 5, du 10 ou du 20 giga. Donc, les mecs peuvent faire des étiquettes un peu bizarres, pas trop finies, en disant « Bah non, excusez-nous, on s'est trompé d'étiquette, on voulait pas vous arnaquer. » Mais en plus, le 3.2 ne fonctionne que en USB-C, donc ça ne va pas faciliter la vie de certaines personnes, sachant que le 3.2 génération 2, c'est du 10 giga, donc on disait que ça allait suffire. Mais non, les mecs, ils ont décidé d'en mettre une couche. Donc, ça devient vraiment n'importe quoi. J'ai hâte que le 3.3 débarque et que les mecs rechangent tous les noms encore une fois, ce qui est complètement stupide. Donc je vais vous mettre le lien d'une news, parce qu'évidemment là vous avez rien compris, je voulais juste faire passer le message que ces gens sont des abrutis. Le tableau lui-même est pas hyper compliqué, c'est juste que ça servait à rien et en plus le résultat final est juste imbitable. Le non marketing est nul, enfin il y a rien à sauver dans cette histoire, et je comprends qu'il y a des gens qui se disent mais putain, pourquoi on a besoin de ces gens là pour faire des specs et pourquoi on est obligé de supporter ça, c'est juste pas possible. Donc magique, un gros effort de la part de l'USBIF qui a bien fait rire toute la presse tech cette semaine, mais maintenant on va falloir se cogner leurs conneries pendant très longtemps, donc on rigole, mais ça va vite nous faire chier quand même. Hein.
Et on vous linkera donc un truc pour essayer, on promet rien, mais essayer en tout cas d'y voir un peu plus clair dans cette nouvelle nomenclature USB, youpi. On passe du côté de Shadow Ghost, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors on avait parlé de Shadow, j'avais fait le test sur Geekzone, c'est le service qui permet d'avoir un PC in the cloud. Mmh. Ils avaient prévu de sortir une nouvelle box qui permet de se connecter à leur service directement sans avoir d'ordinateur, etc. Donc elle est disponible. Elle coûte 140 euros. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans en termes de CPU. J'ai regardé plusieurs news, plusieurs tests, mais en termes de spec technique, c'était pas très clair. Écoutez, c'est une petite boîte avec un look très starkien, j'ai envie de dire. C'est assez difficile à décrire, je ne vous le cache pas. Je vous laisse regarder la photo du truc que je vais linker. Et du coup, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Le but du jeu, en fait, hein, c'est tout bêtement de faire fonctionner le service le mieux possible avec une boîte qui ne chauffe pas, qui ne consomme pas trop et que vous pouvez, par exemple, mettre dans votre salon, dans votre bureau, whatever. Je ne suis pas ultra convaincu de l'intérêt, puisqu'en termes de fonctionnalité, vous avez vraiment les mêmes choses que ce que vous avez sur le client Shadow normal. Hein. En revanche, si vous n'avez pas du tout de matériel ou des trucs qui vous semblent vraiment périmés, vous pouvez toujours utiliser ce truc-là qui va normalement être disponible là, maintenant, tout de suite. En revanche, attention, ils n'ont pas prévu d'en fabriquer des tonnes et des tonnes, donc ça risque de partir assez vite. Surtout qu'encore une fois, je le dis, c'est 140 euros, donc c'est pas trop cher. Et en termes de branchement, on retrouve tous les classiques avec du DisplayPort, de l'HDMI, du USB, il y a deux ports USB 2, deux ports USB 3, un port audio jack. Il n'y a pas de DisplayPort, pardon, c'était
est-ce
dans
qu'il y a du Super Speed USB 3.2 ou
pas? Écoute, je crois qu'ils ont mis juste du 3.0, c'est trop des losers. Alors vu que c'est du 3.0, techniquement, c'est du 3.2 génération, hein, tu vois.
Ah, pas mal.
C'est là où ça devient drôle, et j'adore ça. Non, USB, je crois que je vais pas m'en lasser pendant un bon moment. Alors, c'est 140 $. J'ai pas regardé le prix en euros parce que je suis un très mauvais journaliste. La blague, c'est que je suis pas persuadé qu'ils aient prévu de la pousser énormément, hein, en termes de marketing. Mais bon, maintenant vous savez que ça existe. On en a déjà largement parlé. Il y a une communauté assez, assez fan sur Geekzone. Donc, vous pouvez aller voir avec eux s'ils ont testé la bestiole et s'ils ont décidé d'upgrader. Moi, je vous conseille de bureau, dépoussiérer votre ordi et mettre le client directement, ça sera beaucoup plus simple.
Une faille du côté de Thunderbolt 3.
Oui, alors ça, c'était juste pour tordre le cou à certaines news un petit peu alarmistes, hein, tu vois, genre les clics, tout ça, c'est rigolo, qui sont sortis cette semaine. En fait, il y a une faille depuis, a priori, au moins 2011 dans le protocole Thunderbolt 3, qui permet en fait un accès direct à la mémoire. Il faut savoir que Thunderbolt, c'est une des raisons pour lesquelles c'est assez puissant, c'est qu'une fois que tu connectes un périphérique à ta machine, il est considéré comme un périphérique de confiance et il a un accès direct à la mémoire. Et du coup, il peut zapper plein de trucs dans l'OS, il peut zapper les couches de sécurité. Et fatalement, si c'est pas bien sécurisé d'un point de vue hardware, et ben c'est open bar pour aller se servir. Et a priori, c'est le cas partout. Donc j'ai vu quelques news qui disaient « Oh là là, mon Dieu, tous les MacBooks depuis 2011 ont une faille de sécurité béante, machin et tout. » Alors en fait, c'est tous les ordinateurs de la planète qui ont un port Thunderbolt en vrai. Il se trouve qu'effectivement, il y en a depuis plus longtemps sur les Mac, mais bon, ça change rien. Un des OS les plus pourris au niveau de la gestion des sécurités de ce truc-là, c'est Windows 7, et ça continue jusqu'à Windows 10. Windows 10, il y a juste la version entreprise qui a vaguement une espèce de sécurité autour de ça, mais qui est très limitée. Donc, ne vous alarmez pas. Comme d'habitude, sur ce genre de failles, ce sont des failles qui nécessitent en fait d'avoir la machine sous la main. Vous pouvez pas être attaqué via le net sur ce truc, c'est impossible. Et en plus, la team de chercheurs qui a découvert ce truc-là, en fait, travaille avec Microsoft, Apple et compagnie depuis 2016 pour limiter la casse, puisque, comme c'était un truc de grande ampleur, ils se sont évidemment pas amusés à révéler le bordel dans la nature. Donc, il y a pas mort d'homme. On a vu pire cette année ou l'année dernière en termes de failles. C'est pas celle qui va changer votre vie. En revanche, effectivement, si vous vous baladez avec les plans de la prochaine fusée pour aller sur Mars directement en 2 heures, évitez de vous balader avec un truc avec un port Thunderbolt. Mais sinon, je pense pas que vous craignez grand chose.
Et puis, on va terminer avec des news du côté de Samsung encore.
Oui, alors ça, c'est très rigolo parce que la semaine dernière, j'ai dit une semi-connerie. J'avais dit, la gamme Samsung Galaxy S10 sera disponible comme d'habitude avec de l'Exynos 9820 ou du Snapdragon 855. Et c'est pas grave, ça va faire à peu près la même chanson comme d'habitude. Généralement, le Exynos est un peu moins puissant, mais j'espère que cette année, ça va mieux. Eh bien, les premiers tests sont sortis et nous, en Europe, on a généralement la version avec de l'Exynos, c'est pas la version avec Snapdragon. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les perfs, les premiers tests en tout cas, sont pas terribles pour l'Exynos. Et quand t'achètes un téléphone à ce prix-là, tu te dis, écoutez les mecs, je pourrais pas avoir la version qui pue pas. Non, tu peux pas. Donc, si tu veux le vrai, il faut trouver une version avec Snapdragon qui, a priori, ne sera pas disponible en Europe. Bravo Samsung. Évidemment, il y en a un qui est fabriqué par eux, qui est développé chez eux, donc ils essayent de le placer, puis à mon avis, ça leur coûte moins cher. Mais le résultat, pour tout le monde, est pas magique. Donc je suis un petit peu circonspect sur leur politique au niveau de ce truc-là.
Ouais, c'est bizarre quand même.
Ils font ça depuis hyper longtemps et malheureusement, ils ont pas les perfs d'un Huawei. Alors Huawei, ils se font pas chier parce que eux, ils ont sur le Mate 20 par exemple, enfin ils ont leur propre gamme et ça explose même le Snapdragon, tu vois, donc eux ils peuvent se permettre d'y aller et de faire ce qu'ils veulent. Apparemment Samsung, c'est aussi pour ça qu'ils mettent les deux versions, parce que ils se disent dans ce pays là en tout cas ils sont plus chiants, alors on va leur faire le téléphone qui va mieux. Je trouve ça un petit peu dommage quand même.
Oui,
alors après la différence de perf en fonction du test, elle est pas non plus catastrophique, mais elle est notable dans tous les tests, et du coup c'est un petit peu tendance soupe à la grimace chez les fans de Samsung qui se disent très bien, mais quand est-ce que vous sortez un processeur qui vaut le coup. Donc pour rappel, le Huawei, le Kirin 980 explose le Snapdragon 855 dans quasiment tous les tests, et le Exynos 9820 se place juste au-dessus en fait du Snapdragon 845 dans pas mal de tests. C'est qui est le processeur de chez Qualcomm de l'année dernière, donc ce qui est généralement pas une super bonne nouvelle quand t'as du mal à battre le truc de l'année dernière. Donc je voulais regarder le test de chez Anantech où il y a 1 milliard de graphes, mais en gros, je viens de vous résumer la problématique de manière globale. Vous verrez bien ce que ça donne, mais en tout cas sur des téléphones à ce prix-là, je trouve cette petite arnaque un peu pénible.
Tu m'étonnes. Et c'est la fin de ce 80e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, bon week-end. Bon week-end, Caf.
Oui, bon week-end, Fasquille.
Est-ce qu'on reparlera de Apex la semaine prochaine ou pas? Peut-être. Est-ce que tu vas y jouer encore? Est-ce que tu vas streamer du Spellbreak, peut-être?
Je vais voir ce que je vais faire. Mais écoute, comme je commence à gagner des games, mais uniquement quand je stream pas, je pense qu'il faut que je continue. Il y a un truc, tu vois. C'est, a priori, c'est le syndrome Bonaldi. Hein. Si je stream, c'est une cata. Donc voilà. En revanche, non, on en parlera la semaine prochaine parce qu'il y a eu pas mal de leaks sur les prochains persos, etc. Leurs efforts pour réduire les crashs, qui est vraiment leur problème actuellement, c'est d'avoir un jeu qui ne plante pas chez trop de joueurs, et c'est pas gagné pour l'instant. Donc du coup, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine s'il se passe des choses.
Allez, à la semaine prochaine, bon week-end, ciao.
Ciao. Et du coup, le but du jeu, bah, c'est en fait...
Sans déconner, Lucky.
Oh
Ah bah ouais. Oh bah ouais, mais c'est pas de ma faute à moi.
J'ai mis ma patte, tout est tombé, c'est normal.
Ah, pardon, du coup.
C'est pas grave.
Chut. Putain, elle est relou là.
Un podcast signé Fasquille. Fasquille.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.